Les allumeurs de réverbères vous présentent l'instant qui compte.
Ready for you guys to take one moment to look at the overhead windows on Discovery.
Okay, Ronnie.
Les allumeurs de réverbères.
Le lac de Saint-Point, contes et légendes de Franche-Comté, par Jean de Frane. Il était une fois, il y a de cela très longtemps, au bord du Doubs, en lisière d'une profonde forêt de sapins, une grande cité que l'on appelait Dame Vautier. Je sais bien, les savants doutent de son existence, et certains prétendent qu'au VIe siècle après Jésus-Christ, il ne pouvait exister une grande ville en pleine montagne, dans des lieux sauvages et à peine connus. Ils n'ont peut-être pas tort, mais la légende affirme que Dame Vautier était à cette époque lointaine une ville puissante, célèbre par la beauté de son site et la prodigieuse richesse de ses habitants. Croyons-en la légende, elle a ses raisons que l'histoire ne connaît pas. Il est vrai que Dame Vautier n'était pas une cité ordinaire. Les habitants possédaient des champs où le blé poussait à plaisir, des vergers où les fruits étaient plus lourds et plus savoureux que partout ailleurs. Ils avaient en abondance bétail, gibier et poissons fins. Dans leur somptueuse demeure brillaient l'or et l'argent. Dans leur jardin, les perles étaient aussi nombreuses que les gouttes de rosée. Les rubis et les saphirs scintillaient au creux des fleurs. La nature s'était montrée là d'une folle prodigalité. Heureux habitants de cette ville opulente. Ils vivaient dans une oisiveté dorée et passaient le meilleur de leur temps dans les festins et les fêtes. Ils aimaient à manger mollement étendus sur de larges sofas et songeaient moins à se nourrir qu'à se gaver, de mets raffinés ou étranges. Ils se paraient d'étoffes soyeuses et de bijoux étincelants. Ils étaient paresseux, gourmands, bouffis de vanité et d'orgueil. Le luxe était pour eux un besoin et le plaisir, souvent pimenté de débauche, une habitude. Dame Vautier n'avait rien à envier à l'antique Babylone pour la mollesse et le désordre, l'avilissement des caractères et la corruption des mœurs. Dans cette ville dissolue, les hommes et les femmes étaient devenus durs, violents, cruels. Ils maltraitaient leurs esclaves, ils se méfiaient des voyageurs, ils chassaient sans pitié ceux qui frappaient à leurs portes, pèlerins, mendiants ou pauvres hères. À plusieurs reprises, on avait vu sur la grande place un vieillard à l'air mystérieux et aux yeux fixes. On le regardait avec une curiosité mêlée de mépris. Il ne s'en souciait pas, continuait sa marche au milieu des rires et des insultes, criant à tous ceux qu'il voyait
« Jean de Dame Vautier, enfant égaré, changez de vie pendant qu'il en est encore temps. Renoncez à ce luxe qui pourrit les âmes, revenez à Dieu et il ne détournera pas ses regards de vous. Soyez simple, pieux et bon, sinon la colère du ciel s'abattra sur vous et vous retomberez au néant. »
Mais personne ne tenait compte de ses avertissements. On le chassait de la ville, mais il y revenait, inlassable, obstiné. Puis il n'y revint plus. Dame Vautier, plus encore qu'auparavant, s'abandonna au pire désordre. C'était un jour d'hiver, froid et triste, la neige tombait en bourrasque et la campagne dormait sous un grand manteau blanc. Le ciel était gris, la bise âpre et piquante. Une femme franchit les portes de la cité et les chiens aboyèrent contre elle. Elle avait l'air d'une pauvresse, marchait en haillons et pieds nus, toute courbée dans la neige et le vent. Dans ses bras, elle portait un tout jeune enfant, entouré d'une mauvaise toile défraîchie qui ne pouvait suffire à le garantir du froid. Le petit grelottait, il pleurait et criait, il avait le visage bleui, cinglé par les flocons. La femme avait un air malheureux et crispé, mais elle poussa un soupir de soulagement quand elle put s'abriter sous le porche d'une maison.
« Maintenant,
se disait-elle,
je vais trouver un abri. Ma route a été longue et dure. Mon fils a gémi sous le vent glacial de l'hiver. Mais ici, nous pourrons prendre un peu de repos, Dieu soit loué. Nous ne sommes plus par les chemins couverts de neige. »
Et elle frappa à la porte rehaussée de panneaux sculptés. Un serviteur vint ouvrir et regarda d'un air dédaigneux. La mère montra son enfant et dit d'une voix suppliante
« Ayez pitié de mon enfant, à demi mort de froid et de faim. Donnez-nous un peu de pain et permettez-nous de nous réchauffer un moment à votre foyer. Dieu un jour vous le rendra. »
Mais l'homme, irrité d'avoir été dérangé, répondit d'un ton sec.
« Mon maître est Polius, le meilleur joueur de flûte de cette ville, et il n'aime pas les mendiants. Partez, et n'espérez pas nous attendrir. Partez ou il vous en cuira. »
Il ferma la porte, et la femme, désolée par ce mauvais accueil, alla frapper à la maison voisine. Elle montra à nouveau son enfant et renouvela son humble demande. Un homme au trait lourd et vulgaire lui déclara brutalement
« Mon maître est Sabinius, le premier magistrat de la cité, et il n'aime pas les mendiants. Il est en train de dîner et il a horreur des importuns. Passez votre chemin !»
Elle dut continuer sa route. Elle frappa sans se lasser à la porte des riches maisons bien chaudes, d'où lui parvenaient les odeurs des festins et l'écho des rires et des chants. Partout, elle fut repoussée. Il ne restait plus qu'une belle demeure sur la place, où elle ne se fut pas adressée. Elle résolut de tenter cette dernière chance. Une vieille femme, toute ridée, ouvrit non pas la porte, mais seulement la petite fenêtre découpée dans celle-ci, et que l'on appelle si bien un Judas. Elle regarda l'enfant en pleurs sans la moindre émotion, écouta les supplications de la mère, puis elle dit d'une voix qui n'admettait pas de réplique
« Mon maître est Aurelius, le prêtre, et il n'aime pas les mendiants. Il dit que leur pauvreté est une punition de leur péché. N'attendez rien de nous. Aidez-vous et le ciel vous aidera. »
Et sur ces mots, elle referma le Judas. Ainsi, la malheureuse mère avait trouvé partout la même dureté de cœur et essuyé le même refus. On l'avait chassée, sans pitié, et la vue de son enfant affamé et transi n'avait pas touché ces êtres endurcis et cruels. La nuit était proche, elle se glissait insensiblement avec son voile d'ombre et de froid, la nuit si dure pour les faibles.
« Tout est fini, »
pensait la femme.
« Le petit est à bout de force, et je suis moi-même trop abattue pour résister à cette nuit glaciale. Je suis fatiguée, affaiblie, mais plus encore désespérée par la cruauté du monde. Je suis prête à mourir ensevelie dans un linceul de neige, mais je vous en supplie, mon Dieu, sauvez mon enfant. Donnez-lui le droit de vivre et de vous aimer. Mon Dieu, sauvez-le !»
Et elle éclata en sanglots. Soudain, elle vit venir à elle un vieillard très bon et très doux, qui était un moine de Conda, celui que nous connaissons sous le nom de Saint Point.
« Ma sœur, pourquoi pleurez-vous ? »
« Mon enfant a froid et faim, je suis lasse, et les gens de cette ville ont le cœur plus dur que la pierre. »
« Vous êtes malheureuse, mais ne perdez pas courage. Je suis pauvre, très pauvre, mais je vous aiderai de mon mieux. Venez. »
Le vieillard habitait dans la forêt une petite cabane faite de branchages. Il y fit entrer la femme et l'enfant et alluma un bon feu de brindilles qui les réchauffa. Puis il apporta un morceau de pain d'orge et un bol de caillé. L'enfant se mit à sourire et le vieillard le regarda avec attendrissement.
« Vous nous avez sauvés, »
dit la femme.
« Comment pourrais-je jamais vous remercier ?»«
Ne songez pas à cela, ma sœur, et reposez-vous. Vous en avez grand besoin. Ici, vous serez bien. »
Minuit. Dame Vautier veille et les lumières font aux fenêtres 1000 petits points brillants. Le repas s'achève à peine et l'on apporte encore des boissons fortes. Les convives sont bruyants, ils crient, ils chantent, ils dansent. La fête quotidienne bat son plein, plaisir, gaieté, insouciance. Tout à coup, le tonnerre gronde, plus longtemps et plus violent qu'au jour des pires orages. Le fracas résonne sinistrement dans la nuit. La terre tremble comme si les rochers étaient prêts à s'écrouler. Les sapins s'abattent avec un craquement sec. Les chevaux piaffent et hennissent, cherchant à rompre leur longe. Les chiens, la gueule dressée vers le ciel, hurlent à la mort. Les convives restent immobiles et silencieux. Ils écoutent et la peur se lit sur quelques visages. Le tonnerre s'étue. Il n'y a plus qu'un bruissement sourd et continu, celui de l'eau qui coule et tombe en fraîche cascade, puis les cloches, on sonne le tocsin. Que se passe-t-il ? Les habitants de Dame Vautier s'arrachent à la table ou au bal, ils sortent, l'eau dans les rues monte, monte encore. Le courant est si fort qu'il emporte les imprudents, l'eau pénètre maintenant dans les maisons, par les portes et les fenêtres. Les habitants épouvantés montent aux étages supérieurs, puis sur le toit. Dans cette dernière occasion, les passions se déchaînent. On se bouscule, on s'écrase, on se bat. Les plus faibles surnagent un moment, puis s'enfoncent en poussant un cri. Les survivants établis sur les toits voient l'eau qui continue de couler, toujours plus rapide, à un niveau toujours plus haut. Quelques-uns glissent et tombent dans le courant. Ceux qui jusque-là avaient gardé leur sang-froid le perdent peu à peu. Polius, le joueur de flûte, pousse des cris de détresse. Sabinius, le magistrat, tremble de peur. Aurelius, le prêtre, songe à sa conduite indigne et reconnaît la main de Dieu. L'eau atteint le niveau des toits. Les derniers rescapés disparaissent. Puis c'est le grand silence. Les clochers émergent un moment, puis leur croix. Tout est fini. Dame Vautier, comme la ville d'Is, s'est engloutie sous les eaux. Le lendemain, la femme, réveillée par les cris joyeux de l'enfant, regarde autour d'elle et se souvient. Elle sort de sa cabane et, à travers les arbres, observe la vallée. À la place de Dame Vautier, cité du plaisir et de la dureté, elle voit un grand lac sur lequel court une brume légère. Elle ne comprend pas. Le vieillard, un bâton de pèlerin à la main, s'approche. « Ma sœur, dit-il doucement, les gens de cette ville n'ont pas écouté les avertissements de Dieu. Ils ont été punis par un terrible châtiment. Dieu, si plein de miséricorde, leur aurait peut-être pardonné s'ils n'avaient pas montré hier à ton égard tant de cruauté. Ils ont refusé eux-mêmes leur dernière planche de salut. Malheur à qui ne porte pas secours à l'indigent. Malheur à qui reste insensible aux larmes d'un enfant. » Puis il disparaît, pendant que le soleil se mire sur les eaux du lac dont on entend près des joncs le léger clapotis. La femme, dès lors, vécut avec son enfant au bord de ce lac, auquel elle donna le nom de Saint-Point, son protecteur. La cabane de l'ermite devint quelques années plus tard une petite chapelle et des villages nouveaux s'établirent autour d'elle. L'un d'eux, celui de Malbuisson, réputé pour son cadre agréable, devait prendre à l'époque moderne une importance croissante. Quant au lac, il fut longtemps considéré comme un lieu de mystère. Des pêcheurs racontaient que leurs filets s'étaient accrochés aux croix des cloches de la ville engloutie. D'autres affirmaient avoir vu le soir des ombres étranges et de blancs fantômes errer sur les eaux. Et surtout, dans la nuit qui suivait la Toussaint, on pouvait entendre nettement, montant du fond du lac pour rappeler aux hommes le châtiment du ciel, le glas sonné par les cloches de la cité maudite.
Les allumeurs de réverbères.